entre les mains du Seigneur. Puis on va faire la lecture du jour. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes encore, afin de plonger nos regards dans ta parole, cette parole qui est ineffable, cette parole qui est sans mesure source d'instruction, source de bénédiction, source de directive pour mener nos vies comme il te plaît et comme il est agréable à tes yeux et comme tu peux bénir. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre entendement, nos pensées à cette parole et nous prions que tu puisses trouver en nous une terre qui a été bien travaillée, qui est propice à recevoir cette parole que nous allons partager ce matin. Arrose-la par l'onction de ton esprit, afin qu'elle puisse croître à un tel point où elle porte un fruit qui t'est agréable, non seulement de ce côté-ci de l'éternité, mais jusque de l'autre côté de l'éternité. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis-moi. Permets-nous d'entendre ta voix et permets-nous, Seigneur, de sentir ta présence. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous pour ce temps. Ce matin, on complète la série de 4 enseignements sur Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et ce matin, on est dans le 4e évangile, dans l'évangile de Jean. Mais contrairement aux 3 autres évangiles, l'histoire qui nous est relatée ici semble plutôt provenir du début du ministère de Jésus. Alors que dans Matthieu, Marc et Luc, on parle d'une histoire qui s'est passée vers la fin du ministère de Jésus, lorsque Jésus va pour une ultime fois à Jérusalem. Dans le passage de Jean 2 que nous allons lire ce matin, il est plutôt au début de son ministère, histoire qui précède même sa rencontre avec Nicodème et le fameux verset qu'il va citer à Nicodème et qu'on oublie régulièrement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lors de sa conversation avec Nicodème, un des responsables religieux de l'époque. Donc ce matin, je vous invite à ouvrir dans Jean au chapitre 2, et je vais lire pour vous du verset 13 au verset 17. Jean 2, 13 à 17. La Bible nous dit: « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. » Alors je relis pour vous le verset 16 et le verset 17. Il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Alors, nul besoin de rappeler que cette semaine, on aurait pu effectivement s'arrêter sur un seul passage, mais on a fait un exercice que j'espère intéressant pour vous, qui était de voir des particularités dans chacun des récits qui est fait de cet événement où Jésus va chasser les vendeurs du temple. On ne reviendra pas sur tout ce qu'on a enseigné. On vous invite simplement à visionner ou revisionner les enseignements de cette semaine pour être à jour par rapport à ce qui a été mentionné. Mais aujourd'hui, de façon spécifique, voici 4 points que l'on fait ressortir, et peut-être même 5. Le premier point, Jésus qui va s'adresser aux vendeurs de pigeons en leur disant: ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Jésus rentre dans le temple et puis la Bible nous dit qu'il qu'ils trouvent des vendeurs de bœufs, des vendeurs de brebis, des vendeurs de pigeons, qui, à la base, servent tous pour les sacrifices qui vont être offerts durant la journée. Mais ils occupent quand même un espace qui aurait dû être rempli par les fidèles. On pense notamment, et comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dimanche et un peu plus cette semaine, qu'ils occupaient un espace appelé la cour ou le parvis des païens, le parvis des gentils, donc de ceux qui n'étaient pas juifs. C'était un genre de parcours ou de cour intérieure qui avait été créé par Hérode, qui avait été annexé au temple et qui avait été créé tout simplement pour accueillir des pèlerins non juifs qui désiraient malgré tout par conversion ou par tout simplement sensibilité spirituelle, offrir un sacrifice au Dieu des Israélites. Donc on leur permettait de rentrer dans le temple, mais juste dans cette section-là. Il y avait aussi pour les curieux, il y avait aussi une section qu'Hérode a créée qui s'appelait le parvis des femmes. Donc les hommes n'avaient pas le droit d'aller là. C'est un peu comme on voit dans les synagogues aujourd'hui, où les hommes et les femmes sont dans deux sections de la pièce différentes, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc il y avait aussi cette section pour les païens, mais il y avait tellement de vendeurs qu'on croit, lorsqu'on regarde des textes connexes à la Bible, qui nous relatent un peu ce qui se passait à l'époque, on pense effectivement qu'il y avait tellement de vendeurs qu'ils occupaient la grande majeure partie de cet espace qui était dévoué aux païens ou aux non-juifs, et alors que ceux-ci étaient donc exclus de la maison de Dieu. Donc Jésus va rentrer dans le temple, va voir ses vendeurs, va se mettre à les chasser avec avec un fouet qu'il improvise. Et pendant qu'il chasse les uns et les autres, il va dire à ces derniers qui sont encore là, les vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici ». Et là, on parle d'une épuration. Et vous vous rappelez que tout au long de cette semaine, on a dit que les exhortations qu'on donnait cette semaine étaient valides tant pour l'Église avec un grand « E », entre guillemets avec un grand « E », donc l'Église universelle, le corps de Christ dans son ensemble, qui est en fait le rassemblement de tous les saints, de tous les rachetés. Mais ça, on parle aussi, lorsqu'on parle de la maison de Dieu, on parle aussi de l'Église locale, de l'Assemblée locale, où j'espère chacun d'entre vous avez votre place et auprès desquels chacun d'entre vous vous réunissez ou vous réunissiez avant l'histoire de pandémie. Mais de surcroît à cela, on parle aussi du temple du Saint-Esprit que nous sommes chacun pour soi, chacun individuellement face au Saint-Esprit. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc de façon individuelle, nous sommes aussi une maison de l'Éternel. Et cette épuration que Jésus va demander en disant « ôtez cela d'ici », de retirer des choses qui ne devraient pas être là, ça va sur les trois paliers. L'Église avec un grand « E », l'Église avec un petit « E », l'Église locale, et le temple du Saint-Esprit que vous et moi, nous sommes. Alors, il est important de savoir que régulièrement, dans notre vie, il est approprié de faire une introspection par rapport à ce que nous avons permis d'entrer dans nos vies et de prioriser les choses. Et ce qui se pourrait, d'une part, qu'il y ait des choses qui viennent prendre la place, l'importance, le temps qui devrait être consacré à Dieu, l'attention qui devrait être consacrée à Dieu. Est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles je me passionne qui prennent dans ma vie ou dans la vie de l'Église la place même de notre passion envers Christ? Je ne remets en question nullement votre amour pour le Seigneur, mais cet amour doit être manifesté, cet amour doit se voir, cet amour doit s'entendre, cet amour doit se ressentir, et la question est à savoir, est-ce que lorsque je parle de Jésus avec autant d'émotion que si vous êtes un fan d'une équipe sportive et que vous parlez de votre équipe sportive préférée. Vous savez que je suis un orphelin d'équipe sportive au niveau du hockey. J'étais un fan des Nordiques. Les Nordiques sont partis depuis 95 ou 94, si je ne m'abuse. Et depuis lors, je n'ai pas trouvé le désir en moi de me joindre à un autre groupe de partisans. Donc, je suis encore en deuil de cette équipe. Et lorsque je parle des souvenirs que j'ai de la belle époque des Nordiques, oui, il y en a eu une belle époque malgré tout. Lorsque je parle des joueurs qui ont été illustres dans l'équipe, les frères Stachny, Michel Goulet, Daniel Bouchard, le gardien, qui en passant est chrétien et né de nouveau aussi. Quand on parle de ces joueurs-là, ben j'en parle avec émotion. C'est comme le petit garçon qui était Florent à l'époque revient à la surface. Mais je me demande, est-ce que lorsque je parle de Jésus, je parle avec autant de passion et d'entrain? Vous seriez mieux placé que moi pour en juger de la façon que je vous expose la parole de Dieu. Mais j'ose croire effectivement que je parle avec vous de notre Seigneur Jésus avec plus de passion que je ne le ferais avec une équipe ou concernant une équipe sportive. Mais ça va pour plusieurs sujets de notre vie, par rapport à des passe-temps, par rapport à une profession, par rapport à des sujets d'actualité. On est tous au courant de ce qui se passe au Québec et on a tous une opinion qui peut fluctuer d'une personne à l'autre avec un degré d'émotivité par rapport à tout ce qui se passe actuellement et toutes les mesures qui sont mises de l'avant. Mais lorsque je parle de la pandémie, lorsque je parle des actions du gouvernement, est-ce que je parle avec autant de passion? Est-ce que je parle avec plus de passion ou je parle avec moins de passion que lorsqu'on m'entend parler de Jésus? Et ça, c'est une question importante et c'est une introspection importante. Mais de surcroît à ça, au-delà de ce à quoi on donne notre passion, parmi les choses qu'on doit épurer dans notre vie, il y a aussi ces choses qui viennent ternir, qui viennent abîmer notre relation avec le Seigneur, notamment la question de péché. Alors, quels sont les péchés que moi seul connais, et Dieu, puisqu'il me voit en tout temps? Quelles sont ces choses qui peut-être dans ma vie que Dieu n'approuve pas, que je pratique, que je garde présent dans ma vie et que Dieu voudrait voir disparaître? Quelles sont les iniquités que je maintiens dans ma vie et que Dieu voudrait voir disparaître? Est-ce que je pourrais avoir une accoutumance à certaines pratiques qui ne sont pas approuvées par Dieu? Est-ce que je pourrais avoir une accoutumance à certaines activités, à certaines choses que Dieu n'apprécie pas et les maintenir malgré tout dans ma vie? Alors voilà pourquoi Jésus va dire aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, parce que ça n'a pas sa place dans le temple, ça n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Et dans nos vies, on doit être capable de repérer ces choses-là. On doit être capable de repérer, en tant que pasteur, on vous demande de prier pour nous, mais être capable de repérer ces choses-là aussi dans la congrégation. Je vous citerai un exemple. La discorde entre les frères et les sœurs. Dieu est contre ça. La Bible nous dit que si on sait que quelqu'un a quelque chose contre nous, qu'on laisse là notre offrande, qu'on aille régler la chose avec notre frère, et qu'après ça, on revienne porter notre offrande. Est-ce qu'il se pourrait que dans nos relations fraternelles, on ait des discordes, voire même des prises de bec qui sont irrésolues jusqu'à présent? Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des sujets et des personnes que nous évitions, ou plus des personnes effectivement que nous évitions à même la congrégation, parce que foncièrement on sait que on a une dent contre cette personne ou on a un grief contre cette personne? Logiquement, je ne peux pas m'approcher de Dieu sans avoir pardonné à cette personne. Alors le nettoyage dans ce cas-ci serait aussi un nettoyage de rancœur, un nettoyage de grief qu'on pourrait maintenir ad vitam aeternam contre quelqu'un. Donc, savoir que même dans la maison de Dieu, on a besoin de faire une épuration régulièrement avec une introspection, en demandant à Dieu de nous éclairer et de nous montrer avec précision les choses de notre vie qu'il n'aime pas et qu'il n'apprécie pas et qu'on doit laisser de côté. Et il dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père. Donc Jésus se place là en tant que protecteur du temple, en tant que protecteur de la maison de Dieu. Et nous devrions être aussi protecteurs de la maison de Dieu, protecteurs du temple de Dieu que vous et moi sommes respectivement, mais aussi protecteurs de notre église locale et protecteurs du corps de Christ dans son ensemble, protégés contre le péché, protégés contre la mauvaise réputation, protégés contre les intrusions de la part du diable. On en a nommé une il y a quelques instants à travers la colère, la discorde et la mésentente ou la désunion parmi nous. Donc, être capable de protéger la maison de Dieu. Cette semaine, on a parlé même de la réputation de la maison de Dieu et savoir protéger cette maison-là, savoir protéger la réputation de la maison de Dieu, avec nos propos, quels sont les propos que nous tenons. Il y a trop de chrétiens qui sont médisants envers la maison même de Dieu. Vont dire « j'aime Dieu, mais j'ai un problème avec tous les chrétiens » et vont être assez volubiles sur le sujet, ce qui fait que cette maison qui devrait être glorieuse, qui devrait être admirée et admirable, se voit décrite, dépeinte, de manière peu élogieuse. Et je ne suis pas en train de dire que la maison de Dieu n'a pas besoin d'être réformée, que les gens à l'intérieur de la maison de Dieu sont parfaits. Je ne suis pas en train de dire ça, puisqu'il y a quelques instants, je vous ai dit qu'on avait besoin d'être épuré et régulièrement de faire un nettoyage. Mais malgré tout, nous sommes les publicistes de Dieu. Nous sommes les témoins de Dieu. Nous sommes ceux qui parlent de la maison de Dieu. Alors, le monde aura assez d'occasions pour parler contre la maison de Dieu. Est-ce que nous, on pourrait faire attention? Et je vous rappelais cette semaine que l'Église est quand même l'épouse de Christ, que l'Église est tout de même cette fiancée avec laquelle il est promise et qu'il se prépare lui-même. Donc, est-ce que vous aimeriez qu'on parle de votre épouse comme vous parlez de l'Église de Dieu? Est-ce que vous seriez content de ce qu'on pourrait dire sur l'Église si on prenait de la même manière que vous parlez de votre fiancée? J'espère que oui. Alors, nous devons faire attention sur les paroles que nous prononçons envers l'Église. N'oublions pas que Jésus est mort pour l'Église, que Jésus est mort pour cette fiancée et cette épouse. Alors assurément, il est amoureux profondément de cette épouse et de cette Église. Alors pourquoi parlerions-nous en mal et publiciserions-nous les aspects qui sont encore à changer chez nos frères et chez nos sœurs face au grand public? Alors faisons attention de la réputation que nous donnons par nos propos, mais aussi de la réputation que nous créons à travers nos actions et notre attitude. Jésus va dire « Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Il est en train de dire « Si vous vous aimez les uns les autres, alors à ceci la réputation que vous aurez en tant que groupe, c'est qu'effectivement vous êtes mes disciples. » C'est à l'amour qu'on manifeste les uns envers les autres que la bonne réputation de Christ se bâtit concernant l'Église. Alors, c'est à nous encore aujourd'hui de faire preuve de cet amour à travers nos actions, à travers nos attitudes et même à travers nos réactions, afin que l'image que nous donnons de l'Église soit une image comme Christ voudrait. Quelle serait l'image qu'on donnerait de l'Église si tous les gens autour de nous savent que nous sommes des fraudeurs? On essaie de témoigner de Jésus, on essaie de parler de Jésus qui change le pécheur, de Jésus qui amène des standards d'intégrité dans cette société, alors que tout le monde sait que nous sommes des fraudeurs, tout le monde sait qu'on pratique la fraude, qu'on pratique le travail en dessous de la table ou quoi que ce soit. Le chrétien, dans toutes ses actions, dans toutes ses paroles, dans toutes ses réactions, se doit de bien personnifier l'Église et de donner la bonne image de l'Église. J'en parlais justement hier soir avec mon épouse et on se disait, il y a des choses que nous faisons actuellement en raison de la pandémie. Il y a des choses desquelles nous nous privons actuellement. Nous, en tant que couple, on s'en prive, mais c'est pour donner l'image qui se doit à l'ensemble du peuple de Dieu et aussi aux autres qui sont à l'extérieur. On sait que parce qu'on travaille pour le Seigneur, il y a un certain regard qui est posé sur nous. Donc, on essaie de faire attention, d'être un bon exemple social, même dans comment on respecte les règles que nous impose le gouvernement. Alors oui, en tant qu'Église, notamment pour cette histoire de pandémie, on a eu des règles qu'on a établies parmi nous qui étaient encore plus sévères que ce que le gouvernement demandait, mais c'était dans le but d'être un bon exemple social, d'être un bon exemple au milieu de la communauté chrétienne et au niveau de la communauté en général. Pourquoi? Parce que nous voulons donner un bon témoignage de l'Église. On ne veut pas être un mauvais témoignage, on ne veut pas être un sujet de scandale, on ne veut pas ternir l'image de Christ à cause de nos actions et à cause de notre comportement. Donc ne faites pas ceci, un appel donc à protéger la maison. Mais lorsque Jésus va dire ne faites pas cela, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, ça veut donc dire qu'on a effectivement la capacité à se restreindre. Il y a des gens qui abordent la question du péché comme si c'était une fatalité. Le péché est une décision. Le péché est une décision que je prends de céder à la tentation et de dire oui à la pratique, à l'action, à la parole que Dieu ne veut pas que je pratique ou que je prononce. La Bible dit que nous sommes tous tentés, que nous sommes tous amorcés par une première pensée, puis on médite la chose et après ça on décide oui ou non d'accomplir la chose, donc de passer à l'acte du péché. Donc si Jésus est en train de dire aux vendeurs, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, c'est donc qu'on est capable de ne pas céder, on est capable de ne pas tomber dans le piège, on est capable de ne pas pécher. Lorsque Jésus va dire à différentes personnes dans la parole de Dieu, va et ne pêche plus, notamment à cette femme qui a été trouvée en adultère. Et on pourrait revenir sur cette histoire, mais c'est quand même particulier qu'on ait trouvé la femme et qu'on n'ait pas amené l'homme avec qui elle était tombée. Et lorsqu'on, dans la loi judaïque et dans la pensée des pharisiens et des sadducéens, lorsqu'on voulait accuser quelqu'un d'adultère, fallait pas que ce soit simplement le témoin, un témoin qui dit « moi j'ai vu l'homme rentrer dans la maison ». Non, la personne devait être prise sur les actes, sur l'acte même. Donc lorsque eux sont rentrés dans la maison, ils ont pris ce couple-là dans l'acte. Et cette femme a été amenée à Jésus. Et elle aurait pu être lapidée selon les règles judaïques de l'époque. Et Jésus, on sait, va demander, bon, on va dire, que le premier qui n'a jamais péché lance la première pierre et personne ne va le faire. Et Jésus même va dire, moi non plus, je te lancerai pas la pierre. Pas que Jésus avait déjà péché, mais Jésus exprimait ici la grâce qu'il faisait à cette femme. Et il va rajouter, va maintenant et ne pêche plus. Donc, s'il disait à cette femme de ne plus pécher, c'est que cette femme était capable de ne plus pécher. Alors, pour nous aussi, lorsque on regarde le péché, lorsqu'on regarde les mauvaises pratiques qu'on peut avoir dans notre vie, il nous est possible de ne pas sombrer. Il nous est possible de ne pas pratiquer ces choses qui déplaisent à Dieu. Donc, une capacité à se restreindre. Oui, tu as la capacité de dire non au péché. Oui, tu as la capacité de dire non à la tentation. Encore faut-il que je décide oui ou non de m'y opposer. Et on s'entend que très régulièrement, malheureusement, on cède à la tentation en disant « Ah, je me reprendrai la prochaine fois ». Mais il serait faux de croire que nous ne pouvons pas résister au péché, Dieu nous dit que nous pouvons surmonter toutes choses avec celui qui nous fortifie. Donc, quand moi je décide de pécher, c'est que je n'ai pas pris la force, je n'ai pas pris l'autorité, je n'ai pas récupéré pour moi la puissance qui venait avec mon Sauveur et mon Seigneur. Donc, ôter cela d'ici, qui voulait dire veiller à l'épuration de notre maison. Ne faites pas, qui voulait dire un appel à protéger la maison, et ne faites pas aussi, qui était un rappel pour chacun d'entre nous, que nous avons la capacité à nous restreindre face à la tentation et face à la pratique du péché. Il va dire, ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Et il y a une pensée intéressante qui m'est venue lorsque je priais plus tôt aujourd'hui. Dans cette notion de trafic, bien sûr, le trafic ici veut dire commerce. Ça veut dire qu'il y avait un espace du temple qui était, comme on l'a dit plus tôt, dévolu aux païens, qu'on remplissait plutôt avec un tas de bêtes, des bestiaux et tout ça, et qu'on vendait à qui voulait payer le gros prix pour offrir des sacrifices. Et oui, on parle de ce commerce-là, oui. Alors, il y a une question à se poser. Est-ce que l'Église devrait vendre des choses? Est-ce que l'Église devrait faire des commerces à l'intérieur? Je vous dirais qu'il y a plusieurs écoles de pensée qui est propre pratiquement à chacun d'entre nous. On essaie, dans notre cas, d'éviter les questions de vente pour des questions simplement pécuniaires. La plupart des ventes qui se font à l'Église, en fait, toutes les ventes qui se font à l'Église sont dans le but de financer des projets, que ce soit l'objectif du 50e anniversaire. On avait commencé une fois. Et puis la pandémie est arrivée, on avait commencé à faire des ventes missionnaires, des ventes de repas. Donc ces repas étaient vendus pour permettre de financer le gros projet pour l'année prochaine du 50e anniversaire. On a soutenu à l'occasion avec des ventes comme celle-là le projet de voyage missionnaire que les jeunes ont fait il y a quelques années. Donc il y a toujours eu un objectif derrière qui était de financer l'œuvre de Dieu et non pas de s'enrichir. Mais de surcroît à cela, que cette maison-là ne soit pas une maison de commerce. Et la pensée qui m'est venue, le commerce ne se fait pas simplement entre vous et moi. Le commerce ne se fait pas simplement entre les hommes et les hommes. Le commerce, on est parfois tenté de le faire aussi avec Dieu. On est parfois tenté de marchander avec Dieu. Dire, Seigneur, si tu me donnes telle chose, alors moi je vais faire telle chose. Seigneur, si tu me donnes un nouveau boulot, ben là, à partir de la semaine prochaine, au lieu de t'amener à la maison 10%, qui est la dîme, je vais maintenant donner 12%. Ou sinon, Seigneur, si tu me donnes un mari, ben à ce moment-là, je vais passer plus de temps dans la prière. Et régulièrement, on fait des espèces de marchandages, des espèces de trocs avec Dieu. Et ce faisant, on fait que le temple du Saint-Esprit que nous sommes devient un bureau de change, un bureau de troc entre moi et l'Esprit de Dieu. On ne marchande pas avec Dieu. On n'est pas en mesure de marchander avec lui. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et il dit même, quelle maison allez-vous me bâtir? Oui, il a accepté le temple et oui, il accepte le temple de l'Esprit que nous sommes. Mais ces temples-là, on sait qu'ils sont, je voudrais pas dire ce mot-là, mais je veux dire, ils sont minables par rapport au temple que lui mériterait. Même la vie la plus sanctifiée que je voudrais lui offrir, encore là, elle n'est pas à la hauteur de la dignité qui lui revient à lui, le Créateur de l'univers et le Seigneur de l'univers et le Sauveur de l'humanité. Donc tout ce qu'on pourrait lui donner, il n'y a rien qui justifie une marchandise ou une transaction plutôt avec lui. Donc régulièrement, le temple du Saint-Esprit que nous sommes devient aussi une maison de trafic où on essaie de trafiquer avec Dieu, où on essaie de marchander avec Dieu. C'est comme, moi je te donne ceci, mais j'attends que toi tu me donnes telle chose. Ou Seigneur, quand toi tu m'auras donné telle chose, alors moi, je te rembourserai de telle manière. Dieu a déjà fait tellement pour nous. S'il s'était arrêté simplement au fait de nous sauver et de nous rendre admissibles à la vie éternelle, ça serait déjà suffisant. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne s'arrête pas là et qu'il prend soin de nous quotidiennement. Mais s'il s'était arrêté simplement à donner l'occasion de salut pour tous, ça serait déjà à outrance adéquat. Ça serait déjà à outrance plus que chacun d'entre nous ne pourrait rendre grâce pour cela. Donc, ne marchandons pas avec Dieu. Il est Dieu, nous sommes des humains. Il est Dieu, nous sommes simplement des graciés éternels. Alors, ne faisons pas de la maison de Dieu une maison de trafic, ni dans le commerce qui pourrait s'y opérer. Ne profitons pas de la maison de Dieu en disant « ben moi, je vais devenir chrétien pour être capable de vendre des assurances à tout ce marché-là. » Alors, je commence à avoir un discours un discours chrétien. En anglais, on dit « on va parler Christianese », on va parler le chrétien, on va sentir le chrétien, on va s'habiller comme un chrétien pour essayer de vendre un peu plus d'assurance en se disant « ben tous les gens du monde qui vendent des assurances peuvent pas avoir cette niche-là. Moi, je vais aller percer là-dedans. » J'ai une dame qui s'occupe de mes assurances, qui est chrétienne, et c'est moi qui l'ai abordée, et c'est moi qui suis allé la chercher, et elle me sert pleinement bien. Mais donc je dis l'illustration tout simplement. Et elle est chrétienne en passant. Elle est vraiment née de nouveau, enfant de Dieu et tout ça. Elle fait pas semblant. Elle n'a pas le costume de. Elle est vraiment chrétienne. Alors qu'on a vu à travers les années des gens qui s'approchaient de l'Église tout simplement dans le but d'aller faire une transaction. Parfois, certains s'approchent de l'Église simplement dans le but pour aller chercher un mari ou aller chercher une épouse. Ne ramenons pas notre relation à Dieu à un simple trafic, à un simple échange commercial avec le roi des rois. Alors voilà ce que j'avais pour nous ce matin. On vous rappelle que demain, ça va être un temps de prière. Donc, on va prier par rapport à tout ce qu'on a vu cette semaine et pour d'autres sujets. Donc, prière demain matin, prière demain soir. Et entre les deux, on invite tous ceux qui peuvent à prendre un temps dans le jeûne et dans la prière. Si physiquement vous en êtes en mesure, on vous invite à le faire. Et on va faire ça toutes les semaines. Donc, ça donnera un petit boost spirituel, on l'espère, à vous tous. Alors, prions avant que nous ne saluions les gens pour une dernière fois. Alors merci Seigneur de ces rappels de ce matin. Merci Seigneur de ce rappel de garder ta maison propre, de garder ce temple de l'Esprit que nous sommes adéquatement purifiés, nettoyés pour t'accueillir Seigneur dans le meilleur des hospices. Nous prions aussi Seigneur de nous rappeler la protection que nous devons accorder à cette maison, le travail, Seigneur, de protection envers cette maison. Permets-nous, Seigneur, d'avoir des mots élogieux concernant notre famille chrétienne, concernant l'ensemble des saints qui constituent ton corps, ton épouse. Nous savons, Seigneur, que tu es mort pour chacun d'entre nous, afin de nous greffer à cette église que tu es en train de bâtir et que tu prépares à ce jour si glorieux que sera les noces de l'agneau. Alors nous prions, Seigneur, qu'à travers nos paroles, nos actions, nos réactions, nos habitudes, nos comportements, nos façons de vivre, que nous ne soyons pas une honte et un sujet de discorde au milieu de ton peuple et envers ton Église, ô Dieu. Alors donne-nous, Seigneur, d'être de bons témoins, donne-nous d'être de bons éléments et de bons représentants de ton temple. Et Seigneur, si par mégarde, nous avions une relation avec toi qui tourne plus du donnant-donnant que de la contemplation totale en face de toi. Nous prions, Seigneur, que si nous étions dans un échange de commerce avec toi, que nous revenions, Seigneur, à la réalité des choses. Nous ne pourrons jamais, Seigneur, égaler ce que tu as fait pour nous. Nous ne pourrons jamais être en mesure de prétendre à quoi que ce soit dans ton royaume et auprès de toi. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que tu prépares pour nous, nous le recevrons par grâce et strictement par grâce. Alors Seigneur, si nous étions dans des échanges commerciaux avec toi, si nous étions dans une espèce de trafic avec toi, dans une espèce de négociation avec toi, nous prions Seigneur, que tu nous accordes ta grâce et que tu pardonnes Seigneur, vraiment ce faux pas qui était nôtre et ce manque Seigneur d'élégance envers toi. Seigneur, nous ne voulons pas négocier, c'est ta volonté, strictement ta volonté et totalement ta volonté, parce que nous sommes déjà bénis d'être appelés enfants de Dieu. Alors Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, garde-nous aujourd'hui, prépare-nous pour la journée de demain, dans ce temps de prière qu'on veut passer devant toi, en ta présence. Dispose déjà de nos cœurs, de nos pensées, et dirige-nous et conduis-nous en toutes choses. Alors j'appelle ta protection et ta bénédiction aujourd'hui pour mon frère et ma sœur. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors simplement saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Laissez-moi juste remonter un peu. Donc, je crois, je ne sais pas si on l'a salué, mais bonjour Didier, bonjour Lise, bonjour Denise de Laval, donc Denise Gaudreau, bonjour Jimmy, bonjour Cynthia, content de t'avoir avec nous, bonjour Maggie, Dieu vous bénisse, le bonjour à Eduardo aussi. Bonjour au frère Gérard et à la sœur Denise, à Valmorin-Saint-Adèle. Bonjour à Evelyne. Bonjour à la sœur Nina, au frère Rigoberto qui nous écoute de bien loin au Chili. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Weshilove. Bonjour à Ramon. Bonjour à Flori et à Luis. Bonjour à Jude. Et bonjour à Andrés et Samantha. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, pour tous les autres, je vous ai salué un peu plus tôt. Et si je n'ai pas vu votre nom, je m'en excuse. Mais sachez que votre présence est appréciée. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain matin à 8h30 pour notre bénédiction matinale qui sera consacrée à la prière. Et demain soir aussi, 19h pour notre temps de prière hebdomadaire. Et entre les deux, on le rappelle, si vous en avez l'occasion et les capacités, on vous invite à passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Alors sur ce, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse et on se revoit demain matin. Au revoir à tous.